Allez, tout de suite, on va retrouver Michel Favré, mais on va se mettre dans l'ambiance juste avant.
La terre, elle brille, en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Et oui, ambiance, voilà, juste avant de recevoir Michel, voilà, ce beau générique. Michel, bonjour, bienvenue à Oudo Radio, et puis bonne année, bien sûr.
Bonjour Joël. Alors bien entendu, je profite du passage à l'antenne début janvier pour souhaiter une bonne année à tous les auditeurs de Oudo Radio et à toute l'équipe de la station. Ou plutôt une meilleure année, car on peut espérer que 2022 voit une amélioration de la situation sanitaire par rapport à 2020 et 2021, et que cette nouvelle année tournera plus ou moins la page de la crise Covid. Il reste donc important de se souhaiter d'abord une bonne santé. Et pour finir avec cette séquence des souhaits de début d'année, un petit clin d'œil d'astronome en nous souhaitant aussi un bon ciel en 2022. Pour les tout prochains mois, les astronomes espèrent que se déroule sans encombre la mise en service du nouveau télescope spatial dont on reparlera dans quelques minutes, car il a de bonnes chances d'ouvrir une nouvelle étape décisive dans notre connaissance du cosmos, comme nous le verrons.
Voilà, vous allez en reparler bien sûr de ce télescope spatial qui a fait la une des journaux, hein, du coup, pour une fois que j'ai l'impression encore en avant l'astronomie.
Ça en vaut la peine.
Alors avant que vous nous en parliez, bien sûr, de manière chronologique sur votre chronique, Michel, vous allez commencer par nous parler de l'actualité, et notamment la plus belle comète de 2021 qui s'allonge dans le ciel.
Voilà, par une curieuse coïncidence, c'est la première comète découverte en 2021 qui fait parler d'elle à la fin de l'année, et encore ces jours-ci, début 2022. Nos auditeurs qui se souviennent de la numérotation de ces petits corps du système solaire ne seront pas surpris qu'elle soit identifiée comme C2021A1. Le C pour comète, 2021 l'année de sa découverte, A pour la première quinzaine de l'année entre le 1er et le 15 janvier, et le A final pour la première découverte dans cette période. En fait, c'est le 3 janvier 2021 qu'elle a été repérée par Greg Leonard, un astronome de l'observatoire du mont Lemmon en Arizona, qui est un bon chasseur de petits corps du système solaire, car il avait déjà à son palmarès la découverte de 11 astéroïdes et 8 autres comètes entre 2017 et 2020. Ce qui est de plus en plus difficile à réaliser, car la plupart de ces astres chevelus sont détectés de nos jours par des programmes de surveillance automatique du ciel. Et comme la tradition veut que l'inventeur, hein, c'est comme ça qu'on désigne le découvreur en astronomie, d'une comète lui donne son nom, celle-ci se nomme en fait C2021A1 Leonard. On s'attendait que sa taille et sa luminosité augmentent au fur et à mesure qu'elle se rapprocherait de la Terre et du Soleil, au point de peut-être devenir visible à l'œil nu comme la belle comète de juillet 2020. C'était prévu autour du 10 au 12 décembre, date de son passage au plus près de la Terre, à quand même 34 millions de kilomètres, hein, soit environ 90 fois la distance Terre-Lune, mais le spectacle a été gâché par une météo plutôt défavorable. En continuant à se rapprocher du Soleil, donc en s'échauffant encore un peu plus, ce qui augmente son activité d'éjection de gaz formant sa queue, elle est devenue bien plus impressionnante. Malheureusement, comme son déplacement dans le ciel la faisait descendre jour après jour plus près de l'horizon, nous ne pouvons plus l'observer sous nos latitudes et il faut être plus au sud pour la voir en ce moment. Fin décembre, de très belles photos ont été prises par exemple aux Canaries, avec une queue se déployant sur plus de 30 degrés dans le ciel. Et le 29 décembre, un autre cliché pris dans le désert de l'Atacama, au Chili, montre qu'elle s'est étendue sur 60 degrés. Pour donner une idée, cela veut dire que si l'on prend les 180 degrés qui couvrent la voûte céleste d'un horizon à l'autre, par exemple du sud au nord, la queue de la comète s'étend sur un tiers de cet espace quand on la photographie, car notre œil n'est pas assez sensible pour la percevoir sur toute sa longueur. De très belles photos ont été publiées sur l'APOD, Astronomy Picture of the Day, un site de la NASA très facile à trouver. Cette comète est passée au plus près du Soleil lundi, à une distance respectable quand même, car plus loin que la planète Mercure, et s'éloigne maintenant de nous à tout jamais, car elle ne fait pas partie des très rares comètes périodiques qui repassent régulièrement, comme la célèbre comète de Halley qui nous visite tous les 76 ans.
Alors pour rester dans le domaine des petits cornes du système solaire, une découverte au sujet des astéroïdes.
Effectivement, et cela concerne l'astéroïde Electra, ou Electre en français, connu depuis presque un siècle et demi, et Cocorico. Trois astronomes français viennent d'annoncer qu'il serait quadruple, un cas unique à ce jour. En effet, sous l'effet de la gravité, les objets célestes ont tendance à orbiter les uns autour des autres. Les étoiles dans la lente rotation des galaxies, les planètes autour des étoiles, les satellites autour des planètes. Et même si leur pouvoir d'attraction est bien plus faible en raison de leur masse bien moins importante qu'une planète, ce phénomène concerne aussi les astéroïdes, mais plutôt rarement. Sur plus de 1 million connus à ce jour, seuls 200 possèdent un satellite, c'est-à-dire un astéroïde plus petit orbitant autour d'eux, et il n'y a que 8 exemples où deux satellites orbitent autour d'un même astéroïde, ce qui était le cas d'Electra. Cet astéroïde a été découvert le 17 février 1873 par Christian Peters, un astronome germano-américain à l'observatoire de Litchfield, dans l'état de New York, qui en a détecté 48 au total. Avec cette découverte précoce, le premier astéroïde Cérès n'ayant été découvert qu'en 1801, il porte le petit numéro 130 et il fait partie de la ceinture principale d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et de Jupiter qui regroupe la plus forte population de ces petits corps du système solaire, à peu près dans les 750 000. D'après les estimations, il ferait dans les 180 km en taille. C'est en 2003 qu'on lui a détecté un premier satellite de 7 km à environ 1300 km de distance, baptisé S2003-130, car ces objets sont tout simplement immatriculés S pour satellite, suivis de l'année de la découverte, 2003, et du numéro de l'objet autour duquel ils orbitent, ici l'astéroïde numéro 130. Cette observation avait été réalisée par le télescope américain Keck, de 10 mètres de diamètre, situé à Hawaï par l'équipe de W.J. Merlin de l'université de Boulder, au Colorado. Le deuxième, S2014-130, a donc été découvert en 2014 avec Mellipal, l'un des quatre télescopes européens de 8,20 m de diamètre du VLT au Chili, par l'équipe de Bin Yang, qui cherchait en fait par spectroscopie à différencier les caractéristiques d'Electra et de son satellite, et trouve la présence d'un troisième corps dans le système. Il fait dans les 5 km et orbite à environ 460 km, plus près d'Electra, donc plus difficile à observer ou mettre en évidence. C'est en reprenant des images de 2014 que l'astronome français Anthony Berdeux, travaillant à l'université de Chulalongkorn, je ne garantis pas la prononciation, en Thaïlande, a découvert cet automne la présence d'un quatrième corps dans le système et encore plus difficile à détecter car orbitant à 345 km et faisant moins de 2 km en taille. Pour donner une idée, sur les images, la séparation entre ce petit satellite et Electra équivaut à la taille d'une balle de tennis qui serait vue à 55 km de distance. Il partage cette découverte avec Frédéric Vacher de l'IMCCE, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris-Meudon, et Maud Langlois du Centre d'astrophysique de Lyon. La question qui reste à résoudre maintenant est de savoir comment un tel système a pu se former. L'analyse spectrale des deux premiers satellites démontrait qu'ils avaient une composition analogue à celle d'Electra, ce qui fait penser qu'il peut s'agir de débris de cet astéroïde éjecté lors d'une collision avec un autre. Mais cela peut aussi résulter d'une fragmentation naturelle sous l'effet de la rotation, comme cela a été démontré pour le système triple de Cléopâtre, un autre astéroïde. L'autre possibilité est la capture par le champ de gravitation d'Electra d'un petit astéroïde passant à proximité, même si la collision reste l'hypothèse la plus probable. Dans tous les cas, son orbite très différente des deux autres indique probablement une origine différente. L'étude d'Electra ne fait que commencer, car il faisait partie d'un programme d'observation de la ceinture d'astéroïdes par le VLT entre 2017 et 2019, dont les données sont encore en cours d'analyse.
Alors, puisqu'on parle d'astéroïdes, Michel, y a-t-il du nouveau du côté des géocroiseurs ?
Alors, je rappelle à nos auditeurs que les géocroiseurs, au lieu d'orbiter loin de nous comme ceux de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, ont des trajectoires qui les amènent à croiser périodiquement l'orbite de la Terre, d'où le terme géo, la Terre, croiseur, pour les désigner, et que cela représente un risque potentiel de collision qui pourrait être catastrophique pour l'humanité, mais aussi toutes les espèces vivantes à la surface de la Terre, comme celle qui a exterminé les dinosaures, ainsi qu'environ 50% de toute la vie sur Terre il y a environ 65 millions d'années. On comprend donc à quel point il est important de détecter et surveiller la trajectoire de ces astéroïdes dangereux pour nous, et en cas d'un risque élevé de collision, de se préparer à réagir. C'est dans ce contexte que se situe la mission DART, lancée le 24 novembre dernier, que j'avais évoquée trop brièvement lors de la dernière chronique. Cette petite sonde, dont l'acronyme signifie Double Asteroid Redirection Test, ou test de redirection d'un astéroïde double, a été construite par la NASA et propulsée par un lanceur Falcon 9 de SpaceX. Son but est de vérifier l'une des hypothèses concernant une riposte possible en cas d'un astéroïde fonçant sur nous, à savoir le dévier légèrement, à condition d'avoir prévu cette collision suffisamment longtemps à l'avance. Ainsi, DART va voyager presque un an à destination de l'astéroïde Dimorphos, d'une taille de 160 mètres, ou plus précisément du système double qu'il constitue en orbitant autour de Didymos, de 800 mètres, que la sonde doit atteindre en octobre 2022. Elle éjectera alors un CubeSat, un tout petit engin gros comme une boîte à chaussures, qui filmera sa mission suicide, car elle doit ensuite s'écraser sur Dimorphos dans le but de modifier légèrement sa trajectoire. Avec sa masse dérisoire par rapport à celle de l'astéroïde, hein, environ 600 kg contre plusieurs millions de tonnes, la déviation sera infime, mais elle pourrait être mesurée depuis la Terre, et encore mieux à partir de 2026, quand la sonde européenne ERA, prévue pour être lancée en 2024, ira vérifier sur place l'effet de l'impact. Espérons que les résultats seront positifs et nous donneront ainsi une petite chance de pouvoir un jour éviter une catastrophe pour la vie sur Terre.
Alors la France s'engage dans les lanceurs réutilisables.
Oui, si l'Europe est un leader dans le domaine spatial avec son lanceur très fiable Ariane 5, comme on a encore pu le voir le 25 décembre avec le tir propulsant le JWST dans l'espace, elle subit une concurrence de plus en plus importante de sociétés privées et notamment de SpaceX d'Elon Musk, qui a fait baisser les coûts des lancements en pariant sur une technologie de fusée partiellement réutilisable, comme son Falcon 9. Le 6 décembre dernier, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, a profité de sa visite sur un des sites d'Ariane Group, à Vernon, dans l'Eure, pour annoncer que la France allait investir aussi dans ces technologies en y consacrant une partie des fonds du plan France 2030, souhaitant voir émerger deux ou trois nouveaux acteurs dans le domaine des petits lanceurs destiné à l'envoi de petits ou micro-satellites. À côté du lanceur lourd Ariane 6, dont le premier tir devrait intervenir cette année, Ariane Group travaille sur un projet de lanceur réutilisable baptisé Maya, dont le premier tir commercial pourrait intervenir dès 2026. Avec une capacité d'envoi en orbite basse de 500 kg à 1 tonne, il sera plus modeste qu'Ariane 6, avec sa capacité de 10 à 20 tonnes, mais aussi plus économique pour le lancement de petits satellites, même si Ariane peut en emporter plusieurs à la fois. Au risque d'être un peu caricatural, on pourrait comparer cela à l'utilisation d'une petite camionnette plutôt qu'un gros camion pour livrer un colis. Bruno Le Maire a aussi confirmé le soutien de la France au projet Ariane, avec un financement à hauteur de 140 millions d'euros par an, défini par un accord avec les autres pays liés à Ariane, l'Allemagne et l'Italie.
Et comme cadeau de Noël aux astronomes, le très beau lancement du nouveau télescope spatial JWST, le 25 décembre, dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, je pense que de nombreux auditeurs ont pu assister en direct au lancement le samedi 25 décembre à 13h20 depuis la base spatiale de Kourou, en Guyane. C'était la première fois que la NASA confiait l'envoi d'une mission scientifique aussi importante à un lanceur étranger. Mais le choix d'Ariane 5 n'est pas surprenant quand on regarde sa fiabilité. C'était son 112e tir en 15 ans et elle n'a connu que 3 échecs durant sa carrière commerciale, dont 2 partiels, les satellites ayant bien été mis en orbite, mais pas exactement comme prévu, nécessitant des corrections de trajectoire ultérieures, donc une consommation supplémentaire de carburant, raccourcissant la durée de vie de ces satellites. Ce n'est pas du tout le cas du JWST, dont la trajectoire optimale a permis des économies de carburant qui autoriseront au contraire une prolongation de sa mission. Il est prévu en fait de fonctionner 5 ans, mais on s'attend à ce qu'il dure au moins 2 fois plus. La prestation d'Ariane a donc été parfaite pour propulser dans l'espace les 6 tonnes du JWST, un colis très précieux si l'on songe à son budget d'environ 10 milliards de dollars et les 30 ans qu'auront duré sa conception et sa construction. Dès le lendemain, le 26 décembre, l'antenne principale du télescope a été déployée avec succès et fonctionne parfaitement. C'est elle qui enverra vers la Terre les images au rythme de 27 gigaoctets 2 fois par jour. Entre le 28 et le 29 décembre, alors qu'il était déjà plus éloigné de la Terre que ne l'est la Lune, Il a commencé à déployer son bouclier thermique en commençant par déplier les bras avant et arrière qui le supporteront, d'une longueur totale de 24 mètres. Il fallait ensuite déployer les deux bras latéraux, ce qui a été réalisé pendant la nuit du Nouvel An en France, puis dérouler les cinq couches de protection, chacune d'une surface équivalente à celle d'un court de tennis. Mais cette opération prévue jusqu'au 2 janvier a pris deux jours de retard, car la NASA a voulu procéder à des vérifications supplémentaires. J'ai eu ce matin, sur le site de Ciel et Espace, la confirmation de la réussite de cette étape. Dans la nuit du 29 au 30, c'est la tour supportant le miroir primaire qui a été déployée avec succès. Et durant son trajet d'environ un mois jusqu'à son site d'observation, le point de Lagrange L2 situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, c'est le miroir lui-même qui devra être déplié, car avec ses 6,50 m de diamètre, il était trop gros pour entrer dans la coiffe d'une fusée existante et a donc dû être replié en trois segments pour le lancement. Inutile de dire que les astronomes sont suspendus aux nouvelles du bon déroulement de ces préparatifs, tant le JWST, c'est James Webb Space Telescope, est crucial pour l'astronomie de la prochaine décennie. Rendez-vous fin janvier pour savoir si tout est OK et si le JWST peut nous envoyer ses premières images. En principe, il ne doit être mis en service que dans 6 mois, après toute une procédure de test et de calibrage de ses instruments, mais cela m'étonnerait que la NASA ne fournisse pas quelques échantillons avant pour rassurer tout le monde sur son bon fonctionnement. Sauf si elles sont ratées, comme les premières images de Hubble, qui étaient floues suite à une erreur de courbure de son miroir, et qu'il a fallu aller réparer avec une mission humaine avant qu'il devienne opérationnel. Avec le JWST, ce serait complètement impossible, car il sera à une distance inatteignable par une capsule habitée, environ 4 fois plus loin de nous que la Lune.
Allez, on est toujours en direct sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, toujours en compagnie de Michel Favret pour sa 82e chronique astro. Et là, Michel, vous allez nous parler du thème du mois et notamment nous préciser qu'est-ce que le JWST devrait nous permettre de découvrir.
Voilà, avant de commencer ces explications, je tiens à préciser qu'elles sont largement inspirées d'une série d'articles sur ce sujet du dernier numéro de la revue Ciel et Espace de l'AFA, Association Française d'Astronomie, qu'on doit pouvoir encore trouver en kiosque, pour ceux qui en voudront apprendre un peu plus. C'est le numéro 580 de décembre 2021, janvier 2022. À la base, il y a cette question fondamentale. Pourquoi construire sur Terre ou envoyer dans l'espace des télescopes de plus en plus gros? C'est tout simple. L'histoire de l'astronomie nous montre que les nouvelles découvertes et le progrès de nos connaissances sur l'univers vont de pair avec l'utilisation d'instruments de plus en plus grands. En 1609, l'emploi d'une petite lunette de quelques centimètres de diamètre a permis à Galilée d'observer des objets célestes avec une précision impossible avec nos yeux, dont la pupille ne fait guère que 6 mm quand elle est ouverte au maximum dans le noir. Avec cet instrument très modeste, il a vu des centaines de nouvelles étoiles, les reliefs de la Lune, découvert les variations de diamètre de Vénus et 4 satellites de Jupiter, ce qui a confirmé le modèle héliocentrique de Copernic. Avec la construction de grands télescopes au XIXe siècle, comme par exemple le Léviathan au château de Birr en Irlande, de 1,80 m de diamètre, on a cartographié des milliers de nébuleuses dans l'espace. Et c'est avec la mise en service d'un télescope encore plus grand au début du XXe siècle, le Hooker, de 2,50 m à l'observatoire du mont Wilson en Californie, que Edwin Hubble a démontré que nombreuses d'entre elles étaient en fait des galaxies composées comme notre Voie lactée de milliards d'étoiles et mesuré qu'elles s'écartaient les unes des autres avec le phénomène de l'expansion de l'univers, confirmant ainsi les équations de la relativité générale d'Einstein et permettant d'imaginer le modèle de Big Bang qui est actuellement notre meilleure hypothèse concernant l'évolution de l'univers depuis des milliards d'années. Ce modèle qui n'a cessé de se préciser au cours du XXe siècle avec de nouvelles observations rendues possibles par des télescopes toujours plus grands, comme les 8,20 m du VLT européen installé au Chili ou des équivalents américains de 10 mètres à Hawaï, et aussi le télescope spatial Hubble de 2,40 m lancé en 1990 par la NASA et exploité depuis plus de 30 ans. Et bien entendu, tous ces instruments ont permis aussi d'avancer dans d'autres domaines de l'astronomie, comme nos connaissances sur la formation et l'évolution des étoiles ou la découverte et l'étude des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil. Pour continuer à progresser, il faut une nouvelle génération de télescopes qui sont sur le point d'être mis en service, notamment l'ILT, Extremely Large Telescope, de 39 mètres, en cours de construction par les Européens au Chili et qui devrait être mis en service en 2025, ou dans l'espace, le JWST de 6,50 m.
Alors pourquoi faut-il des télescopes toujours plus grands ?
Alors la réponse est très simple, car elle repose directement sur les équations de la physique, ou plus précisément de l'optique. Plus un miroir est grand, plus il collecte de lumière, donc permet de voir des objets plus faibles, en voyant très peu de lumière jusqu'à la Terre. Avec ses 6,50 m, le JWST a un diamètre de 2,7 fois plus gros que Hubble. Mais comme la capture de la lumière est proportionnelle à la surface du miroir, la quantité de lumière collectée est en rapport avec le carré du diamètre. Hein, si on se souvient un peu des cours de géométrie, on va dire, la surface d'un disque, c'est pi fois le diamètre au carré divisé par 4. Donc le JWST capte 7 fois plus de lumière que Hubble et donc permet d'observer des objets en voyant 7 fois moins de lumière. Donc potentiellement 2,7 fois plus loin, car la baisse de luminosité est aussi fonction du carré de la distance. En réalité, comme on a aussi beaucoup progressé sur la sensibilité des capteurs depuis la fin des années 80 où Hubble avait été construit, on estime que le JWST pourrait observer des objets 100 fois moins lumineux que Hubble. Mais il y a un second bénéfice à utiliser un télescope plus gros, son pouvoir de résolution, c'est-à-dire sa capacité à résoudre les petits détails ou séparer des objets très proches. Là aussi, il y a une équation de la physique qui définit cette résolution théorique comme lambda sur d, c'est-à-dire la longueur d'onde de la lumière captée divisée par le diamètre. Donc le JWST pourra séparer des objets 2,7 fois plus proches que ne pouvait le faire Hubble ou montrer des détails 2,7 fois plus petits dans les structures des galaxies ou à la surface des planètes. Cette notion de résolution théorique est très importante car sur Terre, elle est impossible à atteindre en raison des turbulences atmosphériques. Et même si on place les grands télescopes sur des sites ayant une très grande qualité de ciel, comme le désert de l'Atacama au Chili, il faut des télescopes plus grands pour avoir des résultats équivalents à ceux des télescopes spatiaux. Pour faire simple, les VLT de 8,20 m sont à peu près équivalents à Hubble de seulement 2,40 m. Et le futur ILT de 39 mètres devrait donner des résultats analogues aux 6,50 m du JWST. Un dernier élément à considérer est le facteur lambda de la formule de la résolution, c'est-à-dire la longueur d'onde. Pour avoir une résolution identique en observant dans une longueur d'onde plus grande, il faut un miroir plus grand. Or, l'astronomie moderne observe de plus en plus dans les grandes longueurs d'onde, ce qu'on appelle l'infrarouge. Alors que Hubble observait surtout dans la lumière visible, celle captée par nos yeux, ou l'ultraviolet, c'est-à-dire des courtes longueurs d'onde, le JWST est surtout destiné à observer dans l'infrarouge, puisque ses quatre principaux instruments lui sont dédiés. Le NIRCam, ou Near Infrared Camera, en français caméra pour l'infrarouge proche, NIRSPEC, spectromètre pour l'infrarouge proche, fourni par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, MIRI, un instrument pour l'infrarouge moyen également fourni par l'ESA, et NIRIS, un imageur et spectrographe pour l'infrarouge proche, fourni par l'Agence spatiale canadienne. On voit au passage que cette mission de la NASA est en fait le fruit d'une coopération internationale. Cette vocation infrarouge du JWST impose de nombreuses contraintes, comme le choix de le placer loin de la Terre et de la Lune, ou de le doter d'un bouclier thermique qui permettra de le protéger des rayons solaires pour maintenir ses instruments à des températures très basses, de l'ordre de -230 degrés Celsius ou 40 Kelvin pour ceux qui connaissent cette échelle de mesure des températures basée sur le zéro absolu.
Mais pourquoi ce choix de s'intéresser aujourd'hui surtout aux observations dans l'infrarouge ?
La réponse à cette question est différente suivant le champ de l'astronomie concerné. Pour ce qui concerne la cosmologie, donc nos connaissances sur l'univers à grande échelle et le Big Bang, il s'agit de voir plus loin des galaxies très anciennes, donc formées au début de l'histoire de l'univers. En effet, en raison de la vitesse finie de la lumière, plus on observe loin dans l'espace, plus on observe aussi loin dans le passé, car la lumière des objets observés a mis plus de temps pour nous parvenir. On observe la Lune comme elle était il y a environ une seconde, hein, le temps que la lumière met à aller de la Terre à la Lune, enfin de la Lune à la Terre plus exactement. Le Soleil, c'est 8 minutes, les autres planètes, quelques dizaines de minutes. Les autres étoiles de la Voie lactée, de quelques années à des milliers d'années. Et pour les autres galaxies, de quelques millions à quelques milliards d'années. On estime que les galaxies les plus lointaines visibles sur le Deep Field, réalisées en décembre 1995 par Hubble, sont situées à 12 milliards d'années-lumière. Donc on les voit dans l'état où elles se trouvaient il y a 12 milliards d'années, quand l'univers avait à peine 15% de son âge actuel. Pour voir comment les premières galaxies se sont formées ou comment les premières étoiles sont nées, il faut observer encore plus loin, donc avec un télescope plus grand, et dans l'infrarouge. En effet, Même si la lumière envoyée par ces objets très lointains se situe à l'époque dans le domaine visible, l'expansion de l'univers, qui a énormément dilaté l'espace depuis cette époque, a aussi allongé cette lumière ancienne au point qu'elle nous parvient aujourd'hui dans le domaine de l'infrarouge. En ce qui concerne la naissance des étoiles, dont on sait qu'elles se forment au sein de grands nuages de gaz et de poussière, cette poussière gêne l'observation en lumière visible, et il en est de même pour l'observation des phénomènes au cœur de la Voie lactée, avec ce qui se passe autour de son trou noir supermassif, car il nous est également masqué par des nuages de poussière. Or, l'infrarouge permet de mieux observer au travers de cette poussière, qui est moins opaque à ses longueurs d'onde. Cette comparaison est très simpliste, mais c'est un peu comme si on tirait à l'arc au travers d'une forêt, avec des flèches un peu tordues qui auraient des trajectoires en zigzag. Si les zigzags sont très courts, l'équivalent des courtes longueurs d'onde, la flèche a de grandes chances de se planter dans un tronc. Si les zigzags sont très longs, on peut avoir la chance que la flèche se fraye un passage en évitant les troncs et sorte de la forêt, donc la lumière infrarouge qui traverse le nuage de poussière. Et enfin, un troisième avantage de l'infrarouge est qu'il permet d'observer des objets froids, au sens astronomique bien sûr. Plus un objet est chaud, plus il émet de la lumière énergétique, donc dans des courtes longueurs d'onde. Les jeunes étoiles les plus chaudes émettent plus de lumière bleue, ce qui leur donne un peu cette teinte. Les moyennes, comme le Soleil, ont une nuance jaunâtre, alors que les vieilles étoiles en train de se refroidir tirent vers le rouge, et c'est même l'infrarouge pour les étoiles les moins puissantes qu'on appelle naines brunes. Et parmi les objets froids qui nous intéressent particulièrement, il y a les exoplanètes, notamment celles de type terrestre, qui ont de bonnes températures pour porter de l'eau liquide à leur surface, et donc potentiellement de la vie. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de les étudier en détail, mais avec un télescope plus grand, on pourrait arriver à mieux les séparer de leur étoile, et si c'est dans l'infrarouge, privilégier la lumière qu'elle nous envoie plutôt que celle bien plus énergétique de leur étoile, par exemple afin d'en étudier le spectre et voir si leur atmosphère contient bien de l'eau. Au travers de ces trois exemples, le décalage vers l'infrarouge de la lumière provenant de galaxies très lointaines, le passage au travers des nuages de poussière et l'observation d'objets froids, je crois qu'on peut bien comprendre l'intérêt d'avoir spécialisé le JWST dans l'observation en infrarouge.
Et donc, qu'est-ce que les astronomes attendent comme résultat avec le JWST ?
Alors, l'objectif principal du JWST, quand il a été conçu, pour prendre la succession de Hubble, on pensait à l'époque vers 2005, c'est-à-dire dès les années 1990 sous le nom à l'époque de NGST, Next Generation Space Telescope, c'était la cosmologie avec l'étude des premières étoiles et galaxies. Il devrait être capable d'observer des objets apparus seulement 150 à 200 millions d'années après le Big Bang, donc très tôt dans l'histoire de l'univers. On pourrait presque dire lors de son enfance ou avoir un aperçu de l'aube de l'univers. En observant dans le domaine visible, Hubble ne nous montrait qu'une partie de la population de galaxies perceptible dans le lointain passé, celle dont la lumière de courte longueur d'onde, au départ, donc dans l'ultraviolet, s'était décalée dans le visible avec l'expansion de l'univers. Le JWST, en observant dans l'infrarouge, devrait compléter largement nos connaissances en nous montrant toutes les autres galaxies et nous permettre ainsi d'avoir une vision plus exacte de la situation à cette époque. C'est un peu comme si après un recensement d'un pays qui aurait oublié tous les habitants, par exemple de moins de 10 ans, on avait enfin toute la population. Avec cette nouvelle vision, on espère pouvoir mieux modéliser comment cette structuration en grands ensembles massifs, entourés d'immenses espaces presque vides, a pu naître d'un état relativement homogène qui existait auparavant. De même, en ayant accès à une vaste population de galaxies à différents stades de leur évolution, on devrait mieux comprendre l'évolution dynamique des galaxies depuis leur formation jusqu'à leur stade actuel, et notamment comment par collision et fusion se forment les grandes galaxies spirales. En observant des supernovae, c'est-à-dire des explosions d'étoiles qui permettent de mesurer avec précision la distance qui nous sépare de leur galaxie, encore plus lointaine, le JWST devrait permettre de mieux analyser l'expansion de l'univers au fil du temps, qui est la base du concept actuel d'énergie sombre. En observant à l'intérieur des nuages de gaz et de poussière où elles se déroulent, notamment dans la région de la Grande Nébuleuse d'Orion, le JWST devrait permettre de mieux observer la formation des étoiles et des systèmes planétaires. En permettant d'analyser le spectre de la lumière infrarouge envoyée par les exoplanètes, notamment le système TRAPPIST-1 découvert en 2017, qui comporte trois planètes dans la zone d'habitabilité de leur étoile, le JWST doit nous révéler la composition de leur atmosphère et notamment la présence de certains marqueurs d'une possibilité de vie, comme l'eau ou l'oxygène qui sur Terre a été majoritairement produit par des organismes vivants. Environ un quart du temps d'observation du JWST sera consacré aux exoplanètes. Et parmi les objets froids que le JWST peut étudier, il ne faut pas oublier certains corps du système solaire, comme ceux de la ceinture de Kuiper, d'où nous proviennent la plupart des comètes. En analysant la composition de ces petits objets glacés, ils pourraient nous permettre de comprendre quel rôle ils ont pu jouer dans l'apparition de la vie sur Terre. Il pourra aussi étudier certains satellites glacés des planètes géantes, et sa sensibilité dans l'infrarouge permettra aussi de sonder plus profondément l'atmosphère de ces planètes, et notamment Jupiter. Donc, comme on le voit, le JWST possède un large champ d'investigation, nous permettant de faire progresser nos connaissances dans des domaines très divers de l'astronomie. Et en conclusion, je dirais que comme chaque individu, l'humanité essaie de résoudre avec un tel outil les questions fondamentales qui la taraudent. D'où venons-nous, avec l'étude des premiers âges de l'univers ? Où allons-nous, avec une meilleure connaissance de son évolution ? Et sommes-nous seuls, avec la recherche des marqueurs de vie sur les exoplanètes ?
Allez, toujours avec vous, Michel Favret, pour cette 82e chronique astro. Toujours sur Odo Radio, et là vous allez aborder la troisième partie de votre chronique et nous parler du ciel du mois.
Alors comme chaque mois, je renvoie les auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web www.constellationsetgalaxies.org pour voir les cartes du ciel correspondantes, difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour janvier cet après-midi, avec les fêtes, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Même si depuis le solstice d'hiver du 21 décembre, les journées rallongent doucement, on peut toujours observer le ciel nocturne très tôt le soir, puisqu'en ce moment, le soleil se couche vers 17h30 et la nuit arrive vers 18h40, 19h15 si on veut attendre un ciel bien noir. Ce sera un peu plus tard, fin janvier, avec le coucher vers 18h et la nuit vers 19h15. Bien que nous soyons au début de l'hiver, la nuit précoce fait que le ciel d'automne occupe encore une bonne partie ouest du ciel en début de nuit, avec sa constellation vedette, Pégase, ayant juste dépassé le méridien sud, bien reconnaissable à un grand carré d'étoiles brillantes, accompagné d'Andromède, dans laquelle les astronomes ne manquent jamais d'observer la grande galaxie la plus proche de nous, à quand même 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain qu'on puisse distinguer à l'œil nu dans le ciel, et on peut déjà l'observer comme une petite ellipse laiteuse dans une simple paire de jumelles. À côté du grand carré de Pégase, on peut reconnaître le V formé par la constellation des Poissons, sous laquelle on trouve la Baleine. Avec trois constellations plus proches du nord, Céphée, Cassiopée et Persée, ainsi que Pégase et Andromède, elle illustre la légende de Cassiopée dans le ciel. Les constellations de l'hiver occupent la moitié est du ciel, avec la belle figure d'Orion dessinant une silhouette humaine, la constellation favorite de beaucoup d'astronomes. On la repère facilement à un alignement parfait de trois étoiles qui forment sa ceinture, parfois surnommée les rois mages, en raison de leur apparition dans le ciel du soir vers Noël. Une fois Orion trouvé dans le ciel, on peut remarquer que les étoiles les plus brillantes qui l'entourent forment comme un grand G dans le ciel, permettant de situer les principales constellations hivernales. En commençant devant Orion, c'est-à-dire à l'ouest, on trouve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'abord Aldébaran du taureau, à la nuance orangée, Capella du cocher et sa voisine, puis Castor et Pollux des gémeaux, Procyon du petit chien et Sirius du grand chien qui n'est pas encore complètement levé en début de nuit. Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel. Puis on finit par les étoiles d'Orion avec Rigel, son pied droit, puis ses épaules, Bellatrix et Bételgeuse formant la barre du G. À la fin du mois, la situation sera assez différente avec, dès le début de nuit, Pégase ayant déjà bien basculé vers l'ouest pour aller se coucher et toutes les constellations de l'hiver occupant la plus grande partie du ciel, Orion culminant plein sud vers 21h30. Côté planète, la très brillante Vénus a quitté le ciel du soir car se couchant très vite après le soleil et c'est Mercure qu'on peut apercevoir côté ouest dans le crépuscule en début de mois seulement. Vers le sud-ouest, on aperçoit la brillante Jupiter qui se couche assez tôt, vers 21h30, précédée par la plus discrète Saturne. En fin de mois, elle ne sera plus observable et Jupiter se couchera dès 20h. Comme chaque mois, il y aura quelques conjonctions de la Lune avec ses planètes. Hier soir, un très fin croissant de Lune était proche de Saturne et ce soir, le croissant sera près de Jupiter, entre cette planète et Saturne. Et demain soir, il sera passé de l'autre côté de Jupiter, à gauche, c'est-à-dire à l'est, à peine un petit peu plus loin que ce soir. Il faudra ensuite patienter jusqu'au samedi 29, où le matin, il se rapproche de Mars, environ la largeur de trois doigts bras tendus, avec Vénus qui complétera cet alignement plus à l'est. En dehors de ces observations possibles, une petite remarque sur le calendrier. C'était hier, le 4 janvier, que la Terre était au point le plus proche du Soleil dans sa révolution annuelle, ce point appelé périhélie, alors que nous sommes en plein hiver. Cela montre bien que le cycle des saisons n'a rien à voir avec la distance Terre-Soleil, mais avec l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Et puisque je parle du calendrier, notre prochain rendez-vous avec l'astronomie sur les ondes de O2 Radio devrait être, sauf imprévu, le mercredi 26 janvier. À cette date, le JWST devrait être parvenu à sa destination et avoir été complètement déployé. J'espère donc pouvoir vous donner de bonnes nouvelles de cette mission spatiale très importante.
Voilà, merci Michel pour cette belle chronique. On se retrouve fin janvier. Je ne sais pas si vous voulez nous apporter un dernier mot avant qu'on se quitte sur la partie astronomie.
Non, là, vous me prenez un peu au dépourvu.
Non, mais ça peut être une bonne année. Quoi qu'il arrive, on se voit fin janvier, sauf évidemment des imprévus.
Ce que je n'ai pas fait, je suis en train de penser, là, dans le ciel du mois, souvent, en début d'année, je regarde quels seront les principaux phénomènes astronomiques qui se dérouleront dans l'année. J'ai oublié de le faire, donc je le ferai fin janvier, sachant qu'il y a toujours possibilité d'une surprise, comme une belle comète qui nous arriverait et qui serait visible à l'œil nu. Ça fait toujours plaisir aux astronomes.
Bon, mais ça, on en reparlera. Enfin, vous nous en reparlerez. Voilà. Allez, merci beaucoup, Michel, pour votre habituelle chronique.